Il est midi, Info Week-end avec Isabelle Pelletier.
Un public venu nombreux à la braderie de Païta, l'événement fait son retour pour la première fois depuis le début des émeutes. Passation de flambeau à la présidence du Sénat coutumier, Éloi Goé a succédé à Victor Gauny. Nicolas Metzdorf demande solennellement à Leni Palika de sortir du FLNKS ou d'en exclure l'UC. Le député de la première circonscription était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Le principal suspect dans l'attaque de la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault a été arrêté à Nîmes après des échanges de coups de feu avec les forces de l'ordre. L'adieu discret, une légende du cinéma, les funérailles d'Alain Delon se sont déroulées dans la plus stricte intimité dans son château de Douchy. Et puis l'actu sport sur le territoire, c'est la reprise des compétitions d'équitation à Dimbéa pour la plus grande joie des cavaliers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une belle affluence donc à la braderie de Païta ce matin pour la reprise de l'événement pour la première fois depuis le début des émeutes. Sarah Mégerie.
Sur le parking de l'Arène du Sud, ce rendez-vous a attiré une large foule avant même l'ouverture officielle de l'événement qui devait être à 9h. De belles affaires étaient à dénicher sur les 120 stands sur place.
Je suis surpris qu'il y ait autant de monde aujourd'hui, là. C'est une grande réussite et j'ai trouvé pas mal de choses que j'ai l'habitude de chiner. Donc des objets publicitaires et un tableau d'un local là, de révérend Tepaz.
Ouais, il y a énormément de personnes, mais ouais, on est venu particulièrement chercher des vêtements et puis regarder un peu ce qu'on peut trouver d'intéressant.
Moi, j'ai du mal à trouver ma taille, mais quand je trouve, c'est super sympa, c'est presque neuf. L'avantage du vide-grenier, c'est que vous avez des belles choses pour pas très cher.
J'ai eu ça que je cherchais, chargeur de batterie. Moi, c'est tous les trucs comme ça que j'aime bien.
On fait des bonnes affaires, et surtout pour pas cher, donc ça nous convient, surtout pour moi qui remonte sur Nord, donc ça me convient.
On dirait que ça a l'air de plaire à tout le monde, c'est rempli les cabas.
Et pour cette reprise, l'organisation a dû être pensée différemment, nous explique Patricia Tobelman, co-organisatrice de la braderie de la Reine de Païta.
Les gens ont l'habitude en fait de venir de 8h à midi. Seulement ben là, c'était exceptionnel. On a ouvert à 9h jusqu'à 13h. Et c'est vrai que les gens sont déjà là. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent avec les exposants aussi, qu'ils connaissent d'autres personnes, qu'ils sont dans le coin. Donc c'est vrai qu'il y a des matinaux en Calédonie. Mais voilà, on les accueille. On essaie de faire en sorte que tout le monde soit content. Alors exceptionnellement, on a une braderie. On fait un petit essai parce qu'on reprend aujourd'hui alors qu'on devait, depuis le 13 mai, on a tout fermé. Donc on reprend aujourd'hui pour faire un petit essai. Voir si ça fonctionne. Alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est sur un parking, qu'il y a une entrée et une sortie, donc il faut être un petit peu patient, plus patient que d'habitude.
Cet événement a attiré presque 3000 personnes ce matin et que la braderie fermera ses portes à 13h.
Merci Sarah. Et puis c'était également aujourd'hui le retour de la brocante de la Spank au refuge de la Société protectrice des animaux à Coutiot. Un moment qui a attiré de nombreux visiteurs soucieux de soutenir la cause animale.
Je suis venue plutôt pour aider les animaux, pour aider la Spank, et on a trouvé des petites affaires pour les enfants et des chaussures pour moi.
De toute façon, nous on était vraiment dans l'optique de donner pour leur donner de l'argent pour les animaux, donc les prix c'est des tout petits prix et limite on a envie de donner plus. Je sais que mon amie elle a laissé un chèque juste pour un don aussi, voilà, c'est vraiment l'occasion pour eux de se faire de l'argent pour les animaux.
Et c'était un rendez-vous important, on écoute Michel Gauthier, le président de la Spank.
Depuis le mois de mai, on a fait très peu d'adoptions. Au lieu de faire une vingtaine d'adoptions d'animaux par mois, on n'en a fait plus que 4. C'est très insuffisant. Et donc ça nous fait des rentrées financières en moins. Mais pendant ce temps, il faut continuer à s'occuper du refuge, payer les employés, parce que les assurances, l'eau, l'électricité, etc. Donc nous n'avions pas fait de brocante depuis le 28 avril. Bon, c'est encourageant pour nos bénévoles, car on a traversé une période difficile. C'est important pour la société, protéger les animaux, de récupérer des fonds parce qu'on ne vit pas de subventions publiques, on en a très peu. Donc ces manifestations nous permettent de recueillir donc des fonds à partir des vêtements, des affaires diverses, des chaussures, de la vaisselle, tout ce qui nous est donné par les Calédoniens. Ils sont généreux et nos bénévoles, c'est eux qui tiennent les stands. Il y avait une trentaine de bénévoles sur les stands, il y avait 20 stands, donc ça c'est important.
Des fonds récoltés qui servent donc, vous l'avez compris, à soutenir le fonctionnement de la Spank qui connaît actuellement des difficultés financières. Le Sénat coutumier procédait hier à la passation de pouvoir à la tête de l'instance. C'est Éloi Goé qui a pris ses fonctions en tant que nouveau président, Michael Juneski.
Oui, originaire de l'ère Adjuare, il succède à Victor Goni de l'ère Ayaï. Une passation qui n'a pas pu être organisée à Ouvéa en raison du contexte actuel, bien entendu, mais au siège du Sénat, donc à Nouville, un site également marqué par des exactions sur les bâtiments de l'institution. Les protocoles se sont déroulés dans un climat particulier et lors des discours, le président du gouvernement en charge des affaires coutumières, Louis Mapou, a adressé un constat sans appel du travail du Sénat coutumier, y compris de ses échecs.
3 ans qui m'ont été donnés de prendre en charge les affaires coutumières au sein du gouvernement, les événements douloureux que nous vivons depuis le 13 mai transportent des questions dont certaines sont souvent renvoyées au système de la coutume. Mon mandat s'achèvera ces prochains mois. Je crois qu'il faut travailler à un recentrage des activités à la fois du Sénat et du Conseil coutumier. Vous êtes devenus, ces deux institutions, des enjeux pour des considérations, souvent, qui soit ne relèvent pas directement de vos responsabilités, soit sont véhiculées par l'environnement de la coutume qui est votre champ d'intervention. Il faut que vous vous recentrez. Depuis plusieurs années, me semble-t-il, vous vous êtes trop éparpillés. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Vous avez fragilisé vos fondements, votre fondation. Il faut que vous vous recentrez.
Et Louis Mapou d'interroger sur la place du Sénat coutumier dans les discussions sur l'avenir institutionnel.
Il faudra s'interroger sérieusement sur la place que vous voudrez occuper dans ce processus de discussion dont on entend que certains voudraient piloter ou d'autres simplement y participer. Je crois qu'il faudra éviter la dispersion. La question, je crois, est les difficultés que vous avez rencontrées pour faire valoir vos travaux. Interroge dans quelle mesure le système coutumier aurait vocation à y participer et dans quels termes. La construction d'une société plurielle, comme celle de la Nouvelle-Calédonie de demain, suppose des approches qui dépassent largement le contexte habituel par lequel la coutume aborde les choses. Finalement, c'est une question existentielle pour la coutume elle-même.
Était également présent le président du Congrès, Roquamitan. Éloi Goé, le nouveau président du Sénat coutumier, a conclu la cérémonie avec un appel à l'apaisement lors de son discours après des années de crise au Sénat coutumier avant la crise insurrectionnelle.
C'est un appel à l'apaisement, un appel à se retrouver autour de la table, quelles que soient les responsabilités, pour porter le même message d'apaisement, aussi un message de construction. Le principe de la gestion du gouvernement par la collégialité, c'est un principe qu'il faut saluer. La collégialité, la traduction dans le discours coutumier, c'est le consensus. Pas de vainqueur, pas de vaincu, mais chacun avance.
Le Sénat coutumier, né de l'accord de Nouméa, qui est dans sa dernière mandature, ont rappelé les orateurs, après 24 années d'existence.
Paul Néaoutine dénonce vivement une action de la CCAT prévue à Poindimier. La CCAT a en effet déposé vendredi un communiqué à la mairie dans lequel elle annonce lundi prochain une journée morte en hommage aux jeunes originaires de Canala tués par un tir de riposte de la gendarmerie le 15 août. Le décès de ce jeune relève de la responsabilité des relais CCAT concernés, estime Paul Néaoutine, ainsi que de leurs donneurs d'ordre qui se couvrent du drapeau kanaki et usurpent le sigle FLNKS dans une stratégie du chaos décidée par une seule composante du FLNKS. Le maire de Poindimier dénonce cette opération prévue pour lundi par la CCAT. Décidée unilatéralement, dit-il encore, est contraire aux aspirations de notre population. Paul Néaoutine qui interpelle enfin les services compétents de l'État pour dégager les points de blocage annoncés et permettre la libre circulation, notamment pour le transport scolaire. Nicolas Metzdorf demande solennellement à l'UNIP Alica de sortir du FLNKS ou d'en exclure l'Union calédonienne. C'est l'une des déclarations que l'on retient du député de la première circonscription. Il était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael.
3 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles par la CCAT, Nicolas Metzdorf estime que la situation n'est pas satisfaisante pour lui. On est loin d'un retour à la normale. Le bilan sur le maintien de l'ordre est mauvais et dans le domaine économique et social, les aides de l'État sont rares et médiocres. Le député de la première circonscription relève 2 problèmes pour permettre le retour à l'ordre public.
Il y a le rapport de la France au maintien de l'ordre. Clairement, la France se revendique être un État de droit, mais selon les États de droit, le rapport à l'ordre n'est pas le même. Les États-Unis ou l'Australie sont des États de droit. Et pourtant, je pense que leur façon d'intervenir est différente. Et je crois aussi qu'on n'est pas face à du maintien de l'ordre partout. C'est-à-dire qu'à la tribu de Saint-Louis, c'est plutôt une guérilla semi-urbaine, où on demande à des gendarmes d'intervenir face à des gens qui veulent les tuer. Et donc, ce n'est pas évident non plus, là, de répondre avec les moyens de répression habituels, de manifestations ou même d'émeutes. Donc, ma critique, elle n'est pas envers les forces de l'ordre, qui font un travail magnifique, que je salue. Il y a quand même 400 aujourd'hui forces de l'ordre blessées en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes. Moi qui prends l'avion régulièrement, je vois toujours les policiers et les gendarmes blessés être rapatriés en métropole pour être soignés. La dernière fois, j'étais dans l'avion avec une femme gendarme qui était en fauteuil roulant. Donc je les remercierai jamais assez du travail qu'ils font pour la Nouvelle-Calédonie et du sacrifice qu'ils effectuent. Ma critique, elle s'adresse bien évidemment envers les décisions qui sont prises en haut lieu et les rapports qu'ont ces décideurs, comme je le disais, au maintien de l'ordre. Je crois que cette situation n'existerait pas si nous étions en métropole.
Et Nicolas Metzdorf relève que la Calédonie cumule les mauvais timings entre les Jeux Olympiques, les vacances métropolitaines et la crise politique. Ce qu'il faut, dit-il, c'est l'union sacrée et c'est ce qui justifie, à ses yeux, les démarches communes des quatre parlementaires calédoniens.
Si les parlementaires indépendantistes sont dans une logique de solliciter l'État, même si je trouve ça contradictoire par rapport à leur positionnement sur l'indépendance, mais que finalement ils vont aller convaincre leur groupe de gauche à l'Assemblée et au Sénat de voter des mesures en faveur de la Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas cracher dedans, je le dis clairement. Donc il y a un moment donné, je mets de côté les divisions fortes que l'on a sur les questions locales pour que lorsqu'on va voter les budgets à l'Assemblée nationale et au Sénat, on puisse avoir un maximum de retombées pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de majorité, personne n'a de majorité. Et finalement, entre Georges Naturel qui est au LR, moi qui suis dans la Macronie et M. Rowy et M. Tchibaou qui sont dans les groupes de gauche, ça quadrille quand même l'ensemble des groupes du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, si l'État n'a pas de majorité pour faire voter ces textes, si les Calédoniens s'accordent pour faire voter des mesures pour la Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre.
Le député de la première circonscription reconnaît toutefois que l'attitude de l'Union calédonienne l'inquiète beaucoup. Et dans la perspective d'un prochain congrès du FLNKS, il demande solennellement à l'UNI de trancher.
Je crois que si l'Union calédonienne continue dans cette voie à légitimer la CCAT, il va falloir demander à l'UNI Palika de sortir du FLNKS ou d'exclure l'Union calédonienne du FLNKS. Mais on ne peut pas continuer avec un partenaire indépendantiste qui est en soutien d'actes terroristes et dont on subit les conséquences actuellement. Donc l'Union calédonienne, soit elle se reprend, soit il faudra que le mouvement indépendantiste en tire les conclusions. Et je crois savoir que le congrès du FLNKS, qui doit se dérouler fin du mois et début du mois de septembre, sera un congrès déterminant dans finalement la voie que va choisir la voie politique, la doctrine politique que va choisir le FLNKS. Et moi, je demande solennellement à l'UNI Palika. Ils sont indépendantistes, mais j'ai entendu Jean-Pierre Djaïwo au Congrès dire cette semaine qu'eux, ils étaient pour un combat digne, une indépendance digne avec tout le monde, etc. Il va falloir à un moment donné que si d'un côté on a l'UC qui revendique des actes terroristes et de l'autre côté l'UNI Palika qui revendique un combat digne, il va falloir qu'ils actent finalement qu'ils ne sont pas sur la même ligne politique. Et que donc, est-ce que le FLNKS a encore une légitimité à vivre avec autant de divergences politiques en son sein ?
Interrogé sur une éventuelle reprise des discussions en septembre à Paris, il confirme que c'est le calendrier que propose le président de la République, mais il se demande si les indépendantistes seront prêts et il annonce que les partisans du maintien dans la France se préparent. Ils se sont réunis tous ensemble pour la première fois mercredi dernier entre les loyalistes, le rassemblement et diverses personnalités pour avancer sur une proposition commune.
On va dire que les mouvements officiels non-indépendantistes tendent vers une organisation de la Nouvelle-Calédonie qui soit fédérale. Parce qu'aujourd'hui, on considère que l'accord de Nouméa n'a pas fonctionné, qu'il a amené les débordements qu'on a connus. Moi, je suis opposé à toute partition de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai dit. Je suis quelqu'un de brousse et je n'accepterai pas qu'on abandonne les gens du Nord à leur propre sort, parce que quand on défend un pays, on défend tout le monde et on doit laisser personne sur le bord de la route. Et tant qu'il y aura finalement des gens à nous, j'ai envie d'utiliser cette expression, partout en Nouvelle-Calédonie, je les défendrai partout. Par contre, il y a des organisations qui permettent à des modèles de société de se construire en fonction des espaces géographiques et qui correspondent un petit peu au milieu dans lesquels on vit. Et je crois qu'une organisation fédérale interne à la Nouvelle-Calédonie est souhaitable, je le dis avec beaucoup de sincérité.
Nicolas Metzdorf prend l'exemple des organisations des États américains ou australiens. Il se dit persuadé que l'on doit pouvoir arriver à organiser la société calédonienne de manière à ce que chacun se sente en sécurité là où il est. Et il affirme que c'est une vraie démarche d'union qui est entreprise par les partisans du maintien dans la France.
Les débats se passent sereinement, les gens se respectent. Parce que je crois qu'on a tous pris la mesure de la gravité de la situation. C'est la première fois qu'on discute entre nous avec des positionnements différents et très tranchés, mais avec beaucoup de respect et beaucoup d'écoute de la part des uns et des autres chez les responsables non-indépendantistes, parce qu'on mesure la gravité de la situation et on mesure aussi la responsabilité qui est la nôtre à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur et de faire en sorte de prendre la meilleure décision possible pour les Calédoniens. Donc finalement, si je dois résumer les choses, nous, les non-indépendantistes, on utilise le temps qui nous est donné, malheureusement, et par l'État et par les indépendantistes, par leur défaillance, pour se structurer, pour s'organiser et pour consolider notre démarche, parce qu'il faut qu'on arrive unis à la table des négociations.
Interrogé sur le report du Forum des îles du Pacifique, le député de la première circonscription regrette que les non-indépendantistes aient délaissé les relations internationales, alors, dit-il, que nous avons des alliés dans la zone. Et il revient sur le communiqué publié par les pseudo-experts internationaux.
Parce que les indépendantistes, ils ont été chercher 2-3 amis à eux qui connaissent à l'ONU, leur ont pré-mâché un communiqué qu'ils ont signé. Mais c'est pas l'ONU qui s'exprime, c'est des personnalités de l'ONU. Mais ça démontre encore une fois qu'on a encore un petit retard sur les questions internationales et il va falloir le combler. En tant que parlementaire, j'en profite moi pour faire la tournée des popotes, mais on doit continuer de manière plus structurée et peut-être aussi, et on en a parlé lorsqu'on a fait cette grande réunion des non-indépendantistes, peut-être aussi nommer chez nous des élus responsables un petit peu des questions internationales. Vous voyez bien, hein, Michael Forest chez les indépendantistes, il est membre du gouvernement, mais c'est un membre du gouvernement fictif, hein, puisqu'il agit comme ministre des Affaires étrangères du FLNKS. Et donc ben, nous aussi, on doit avoir ces lobbyistes internationaux qui font le travail.
Et concernant la crise politique nationale, Nicolas Metzdorf estime urgent que le président de la République nomme un premier ministre, notamment pour permettre que la situation de la Nouvelle-Calédonie soit traitée comme il se doit.
Une interview de Nicolas Metzdorf qui sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez aussi la retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Il est 12h16, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la actualité nationale et internationale. On se retrouve après une page de pub.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end, on retrouve Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité en métropole et l'attaque d'une synagogue à la Grande Motte dans l'Hérault, le suspect a été arrêté à Nîmes dans un quartier sensible après des échanges de coups de feu avec les forces de l'ordre. Pour rappel, au moins 2 voitures, dont l'une contenant une bouteille de gaz qui a explosé ainsi que plusieurs portes de la synagogue avaient été incendiées. C'était samedi soir pour nous. Un policier municipal avait aussi été légèrement blessé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à tous les préfets le renforcement immédiat des gardes statiques devant les lieux de culte juifs. On écoute le soulagement du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, rassuré du faible bilan humain de cette attaque, et on écoute aussi son inquiétude face au climat général.
Nous sommes passés effectivement tout près d'une vraie catastrophe. C'est néanmoins une attaque qu'il faut prendre très au sérieux. Depuis le 7 octobre, ces actes se sont multipliés semaine après semaine, hein, je rappelle, plus 1000% d'augmentation des actes antisémites dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre. Et aujourd'hui, une étape supplémentaire qui a été franchie avec la volonté de tuer, parce que ce qui s'est passé à la Grande Motte, c'est d'abord et avant tout un homme qui est venu avec la volonté de tuer des juifs. On est face à un acte qui s'inscrit dans la longue série des tentatives réussies ou avortées d'attentats contre les juifs dans notre pays.
Yonatan Arfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Gérald Darmanin s'est rapidement félicité sur X de l'interpellation de l'auteur de cette attaque contre la synagogue de la Grande Motte. Plus de 200 policiers et gendarmes avaient été mobilisés. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. En Allemagne, cette fois, après l'attaque au couteau mortel à Solingen dans le nord-ouest du pays, une deuxième interpellation, cette fois du principal suspect, a eu lieu. Il s'agirait d'un Syrien de 26 ans arrivé en Allemagne fin décembre 2022 et bénéficiant du statut de protection subsidiaire souvent accordé aux personnes fuyant ce pays en guerre civile. La première interpellation concernait un adolescent de 15 ans en lien avec l'auteur des faits. L'attaque s'était produite samedi matin. Pour nous, elle a fait au moins 3 morts et 5 blessés graves et a été revendiquée plus tard par le groupe État islamique pour, je cite, « venger les musulmans de Palestine et d'ailleurs ». Retour en métropole avec la politique. Jean-Luc Mélenchon entrouvrirait-il la porte à un gouvernement NFP sans insoumis? Il pose en tout cas cette question à ses opposants, notamment macronistes. Seriez-vous prêt à ne pas censurer une équipe gouvernementale sans les insoumis, mais qui appliquerait le programme du nouveau Front populaire? Réponse de plusieurs députés du camp présidentiel. La censure, si le programme leur semble trop proche des insoumis. La question pourrait aussi être posée à Laurent Wauquiez, qui fait ce dimanche sa rentrée politique. Un rendez-vous qui aura un sens différent, car avant la dissolution de l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez n'avait pas prévu de redevenir député. Louis de Raguenel pour Europe 1.
C'est donc en tant que député fraîchement élu, président de son groupe de 47 parlementaires, que l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes prononcera son discours à la mi-journée. Devant plus de 500 personnes, tout l'enjeu pour Laurent Wauquiez est d'écrire le début d'une histoire, le début d'une nouvelle aventure politique dont il espère qu'elle le conduira à l'Élysée en 2027. L'élu de droite devrait en profiter pour préciser sa position par rapport aux appels du pied d'Emmanuel Macron, qui aimerait voir les députés de droite participer à une coalition gouvernementale pour sortir de l'impasse. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy devrait rappeler qu'il ne soutiendra d'aucune manière la stratégie d'Emmanuel Macron, car Laurent Wauquiez est plus convaincu que jamais qu'au terme du mandat d'Emmanuel Macron en 2027, les Français salueront son opposition constructive. C'est en tout cas son souhait.
Et rappelons qu'Emmanuel Macron recevra lundi Jordan Bardella et Marine Le Pen et Éric Ciotti afin de clôturer ses consultations en vue de former un gouvernement. L'adieu discret, intime d'une légende du cinéma français, les obsèques d'Alain Delon, comme le souhaitait l'acteur, ont eu lieu sans hommage national et dans la plus stricte intimité, mais des centaines de fans sont venus eux aussi. Le reportage à Douchy, au château d'Alain Delon, de Johan Madec.
Toute la journée, les admirateurs d'Alain Delon ont défilé devant le grand portail du domaine. Faute d'assister à la cérémonie, plus de 1000 mots de condoléances ont été laissés par le public dans les cahiers qui étaient à leur disposition. Sur le portail, des dizaines de bouquets de fleurs, de photos signées et de cartes saluent l'acteur. Quelqu'un a même laissé des gants de boxe. En fait, chacun insistait sur la raison particulière pour laquelle Delon avait marqué sa vie. Comme Gérard, très ému, qui lui aussi a laissé un mot à la star.
Ça fait 3 fois que j'y ai ici. J'habite à côté, je suis à 20 km à peu près. Et c'était une personnalité très importante pour moi. Il restera toujours dans mon cœur, hein. De toute façon, c'est sûr. Hein.
Sous un soleil de plomb, presque tous les fans sont restés l'après-midi entière, autant par signe de respect que dans l'espoir d'apercevoir quelque chose. Mais la cérémonie était très intime, seule une quarantaine d'invités proches de la famille étaient admis. Parmi eux, des figures du cinéma français comme Vincent Lindon ou Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, mais aussi des politiques comme Rachida Dati ou Valérie Pécresse. Seule ouverture vers l'extérieur, une courte apparition d'Anthony et Alain-Fabien Delon, venus à la rencontre des fans aux grilles du domaine. Visiblement touchés, les deux fils de la star ont remercier les personnes sur place avant d'ajouter « Il est là, il nous voit ».
Le reportage de Johan Madec pour Europe 1. Et puis, en bref, samedi 24 août, c'était le jour de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, de l'Union soviétique. Vladimir Zelensky a promis des représailles à la Russie alors que Kiev a lancé une offensive dans la région russe frontalière de Koursk et que les troupes russes continuent d'avancer dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Zelensky qui a aussi promulgué la loi interdisant l'église orthodoxe ukrainienne liée à Moscou. Il est 12h23, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive. On se retrouve tout de suite après une page de pub.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse, rrb@rrb.nc. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Et avant de retrouver Isabelle Pelletier, on fait un gros clin d'œil à notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
L'actualité sportive du football avec la suite de la deuxième journée de Ligue 1 et Monaco et Lille qui gardent la cadence, Mickaël Juniski.
Oui, tout d'abord cette victoire de Monaco sur le terrain de l'Olympique Lyonnais, 2-0. Les Monégasques ont maîtrisé leur sujet pour rester invaincus depuis le début du championnat de France. À l'inverse de Lyon qui enchaîne deux défaites d'affilée. Les Monégasques, même en ayant joué les dernières secondes à 10 contre 11, la rencontre ont pu compter sur les buts signés Lamine Camara et Elias Benseguir. On écoute Elias Benseguir.
On gagne avec la manière, avec de 2 buts. Ça va faire le 3e match qu'on enchaîne avec des clean sheets et ça montre notre manière de jouer, attaquer sans encaisser de but et essayer d'être le plus efficace possible.
Lille aussi est sur la bonne voie après une victoire sur Angers 2-0, des réalisations signées Meunier, Bayo. Enfin, dernière victoire sur le même score aujourd'hui, 2-0 en faveur du Havre sur la pelouse de Saint-Etienne, le promu qui n'a toujours pas remporté de match pour son retour dans l'élite. Je rappelle qu'hier le PSG avait surclassé Montpellier 6-0 suite des rencontres ce soir et demain matin avec Lens-Brest, Strasbourg-Rennes, Nantes-Auxerre, Nice-Toulouse et Marseille-Reims en match de clôture de cette deuxième journée de Ligue 1.
On jette un coup d'œil aux principaux résultats sur les autres pelouses européennes.
En Angleterre, Manchester City est en tête après sa victoire sur le promu Ipswich, 4-1, va falloir s'habituer à le dire celui-là. Manchester United en revanche s'est incliné à Brighton 2-1 et Arsenal l'a emporté à Aston Villa 2-0. La Bundesliga allemande, le Borussia Dortmund qui s'impose sur Francfort 2-0. Fribourg est leader grâce à son succès sur Stuttgart 3-1. En Espagne, le Barça s'impose sur l'Athletic Bilbao 2-1. Enfin, dans le calcio italien, une défaite du Milan AC à Parme 2-1. Et dans le même temps, l'Inter Milan de son côté a battu Lecce sur le score de 2-0.
Du cyclisme avec le Tour d'Espagne.
La 8e étape de la Vuelta qui aura vu la victoire de Primoz Roglic, le Slovène qui a repris au passage les commandes du classement général. 56 secondes d'avance désormais sur l'Australien Ben O'Connor. Le meilleur français au classement est David Gaudu. Il est en 16e position. Ce soir, le peloton s'attaquera à une étape montagneuse de 179 km jusqu'à Grenade.
Et puis un mot des Jeux paralympiques avec la flamme qui a été officiellement allumée aujourd'hui en Angleterre, le berceau du mouvement paralympique. La flamme commencera son périple en France ce soir après avoir traversé la Manche.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La F1 avec le Grand Prix des Pays-Bas.
Et le Britannique Lando Norris qui a signé la pole position devant le triple champion du monde en titre Max Verstappen sur Red Bull. L'autre McLaren d'Oscar Piastri s'est classé 3e sur la grille de départ. George Russell sur Mercedes et Sergio Perez sur Red Bull complètent le top 5. Tandis que Lewis Hamilton n'a signé que le 11e temps avec en plus une pénalité pour gênes durant les qualifs. Il partira de la 17e place. Côté français, Pierre Gasly a réussi à terminer dans le top 10 au volant de son Alpine.
Non, on arrive à passer en Q3 juste devant une Ferrari et une Mercedes et voilà, ça a été je penserai clairement le maximum qu'on pouvait faire avec la voiture. Maintenant le prochain challenge, ça va être essayer de rester dans le top 10 pour demain.
Moins de réussite pour Esteban Ocon sur l'autre monoplace de l'écurie française. Il n'a signé que le 17e temps de référence, un Grand Prix des Pays-Bas qui sera à suivre ce soir à partir de minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport en Calédonie, du tennis avec la finale du club du Receiving.
L'affiche du duel pour le titre cet après-midi, Nicolas Ngodrella affrontera Anthony Ascuaga. Les deux joueurs ont remporté hier leur demi-finale. François Fortier est le juge arbitre du tournoi.
Le club recherchait une petite remise en forme après les événements que l'on connaît. Donc ça permet aux joueurs d'oublier un petit peu tous les problèmes courants. Et on a la finale Nicolas Ngodrella contre Anthony Ascuaga. Nicolas, lui, il est 4-6 et Anthony est 15. Donc ça va faire un beau match.
La finale du tournoi Messieurs du Receiving sera à suivre cet après-midi à 15h.
Et on termine, Mickaël, avec une reprise pour l'équitation.
Adin Béa pour la plus grande joie des cavaliers, un concours CSO organisé au Yala Ranch. C'est avant tout une opportunité pour la jeunesse de se retrouver, de retrouver les joies, de se mesurer les uns aux autres sur leur monture après l'interruption des compétitions officielles pendant plus de 3 mois.
Bah, on est contente parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en concours.
Ça fait du bien.
Pour s'amuser, donc ça va.
Oui, ça fait du bien, on retrouve l'esprit du groupe.
C'est cool que ça recommence, que tout le monde puisse se déplacer avec les chevaux et tout. On s'entraîne pour la compétition, du coup c'est sûr que ça manque. Nous, on a envie de faire la compétition.
Ça fait du bien de pouvoir refaire des parcours avec son cheval. Ça fait du bien de pouvoir remonter, avoir la sensation de faire un concours, être heureux, quoi.
Je m'appelle Sarah, j'ai un centre équestre au Yala Ranch à Dembéa.
Aujourd'hui, cette compétition de retour, voilà, on voit le sourire, les cavaliers, les cavalières, tout le monde qui est présent.
Ah, tout le monde est content de revenir et de se retrouver, et ça crée du lien et tout le monde est content. Ça reprend progressivement, là, ça y est, tout le monde est bien revenu quand même dans l'ensemble. Les gens sont contents de retrouver leurs chevaux. Ça leur fait du bien.
Et plus d'une centaine de participants en lice aujourd'hui pour ce concours fédéral de saut d'obstacle organisé au Yala Ranch de Dembéa. Un dernier mot de sport hors du territoire. On vous rappelle cette bonne nouvelle pour la trailleuse Angélique Plair qui a remporté le Grand Raid des Pyrénées, le Tour des Cirques, plus précisément une distance de 122 km, 7400 mètres de dénivelé positif. Son temps final, 23h35 minutes et 10 secondes.
Merci beaucoup, Mickaël. Il est 12h30, c'est la fin de ce journal.